Donc moi, je voudrais profiter de cet exposé que je vais donner en fin de séance, et là seul d'une certaine manière, parce que j'aurais aimé pouvoir l'articuler à celui qu'aurait donné Charlotte de Noël. En tout cas, je voudrais profiter de cet exposé pour préciser les engagements que nous avons formulés au sein du projet ENDP en lien avec l'axe 2, cet axe intitulé Livres et bibliothèques, reconstitution et valorisation numérique en ligne de la bibliothèque du chapitre et histoire des livres et de leurs usages à Notre-Dame. Alors, je vais appréhender cet axe sur un temps long. Vous m'entendez bien, pardon?
Oui,
Bien.
très bien.
J'entends au moins un oui. Je vais appréhender cet axe sur un temps long qui englobe, et postérieur à la période médiévale, hein, un temps qui englobe les 16e, 17e et 18e siècles, parce qu'une partie des sources que nous manipulons pour appréhender la bibliothèque capitulaire ont été établies à la première modernité. Et puis, je voudrais surtout profiter de cet exposé pour mettre en exergue certains angles morts, attirer l'attention sur les lacunes des sources et inviter à un repérage des livres que nous ne retrouverons pas parce que l'institution capitulaire a décidé de s'en séparer. Hein, c'est un point qu'a déjà évoqué dans sa présentation Laura Albiro tout à l'heure. Alors, le livre, y compris le livre liturgique, qu'il soit manuscrit ou imprimé, qu'il soit conçu ou acquis pour l'exercice du culte, occupe dans l'ensemble de l'enclos cathédral une position que je dirais archipélagique. Il y a des îlots de livres dont les plus importants et seuls les plus importants forment bibliothèque. Alors le premier îlot massif, c'est celui de la bibliothèque capitulaire, la collection commune des chanoines. À la fin du XVIIIe siècle, au moment de sa confiscation par le régime révolutionnaire, elle est réputée contenir entre 10 et 12 000 volumes, cette bibliothèque capitulaire. C'est l'estimation donnée par Luc Vincent Thierry dans son Guide des amateurs et étrangers voyageurs à Paris, donc un manuel voilà, de tourisme patrimonial, de tourisme culturel, pour dire les choses un peu simplement. Et je me base sur l'édition de 1787. Ce sont des chiffres qui ont été repris par Alfred Franklin, mais ce sont des chiffres auxquels j'ai du mal à croire. Il faudra que nous les confrontions à la réalité de ce que donnera le décompte et la mesure des inventaires dont nous allons entreprendre l'édition. En tout cas, c'est une bibliothèque que j'ose dire encyclopédique, au moins pour la période 15e-18e siècle, et une bibliothèque dont la localisation a changé au cours des siècles, et puis une bibliothèque dont la localisation est aussi inconnue pour certaines périodes. Hein, quelques exemples, vers 1370, on sait qu'il y a un projet pour l'implanter au-dessus de l'église Saint-Aignan. Est-ce que vous voyez le curseur quand je l'anime ou pas?
Oui.
Oui, merci. Voilà. Donc, il y a un projet pour l'implanter au-dessus de l'église Saint-Aignan, dont on ne sait s'il a été mis à exécution. À partir du début des années 1410, on sait que cette bibliothèque capitulaire, elle est localisée sous les voûtes ou dans les combles de l'église cathédrale et qu'on y accède par l'escalier de la tour nord. Mais vous entendez l'ambiguïté. Sous les voûtes ou dans les combles, ce n'est pas du tout la même chose, hein, d'un point de vue architectonique. Après 1465, on sait qu'elle occupe un bâtiment dans la proximité du chevet du cloître, donc en lien direct avec la salle capitulaire. Et ce n'est que dans le dernier quart du XVIIe siècle qu'elle se sédentarise, qu'elle va trouver une localisation fixe, au moins jusqu'à la Révolution. Suite à d'importantes donations, celle de l'archevêque François de Arlay-Chamballon, celle du chantre Claude Joly, la décision est prise de lui affecter un nouvel espace dans lequel les collections seraient en principe également accessibles au public. Et donc, c'est en 1681 que les livres gagnent le premier étage d'un ancien logement canonial situé à l'entrée du cloître. Et la bibliothèque commune y reste donc jusqu'à la Révolution. Et c'est là que sera dressé le dernier inventaire en 1790, ou plus exactement, c'est là qu'on opère un récolement des inventaires anciens, des inventaires du milieu du XVIIIe siècle. Voilà, mais de toute évidence, les livres ont circulé, notamment la bibliothèque commune a intégré un certain nombre de volumes venus du sanctuaire après que ceux-ci ont perdu leur usage liturgique, mais elle les a intégrés ou pas, comme nous le verrons. Voilà, je reviens à mon tableau archipélagique. Il y a aussi des livres conservés pour l'usage dans le sanctuaire, hein, et les registres capitulaires en offrent plusieurs instantanés successifs. Je voudrais renvoyer par exemple à un inventaire de 1409 intégré au registre capitulaire qui a déjà été étudié par Darwin Smith, et inventaire qui laisse voir notamment la présence de deux collectaires dans un coffre à côté de l'autel, une dizaine de livres, dont une Bible en 4 volumes, placé dans une armoire située dans la proximité de la cathèdre épiscopale, et également un certain nombre de psautiers enchaînés dans le chœur. Troisième îlot, celui de la sacristie et du trésor. Hein, les deux espaces sont contigus ou se superposent. Le passage de l'une, de la sacristie, à l'autre, le trésor, révélant peut-être non pas un processus de sanctuarisation, mais le passage d'un statut d'usage à un statut de patrimonialisation. Mais cela dit, c'est le passage du trésor à la bibliothèque commune, on va le voir, qui est moins évident. Voilà, autres ensembles, autres îlots, il y a aussi des livres dans d'autres sanctuaires de l'enclos cathédral, et notamment à Saint-Jean-le-Rond. On le sait, on dispose d'un inventaire conservé aux Archives nationales, c'est l'inventaire de reconnaissance de prise en charge par les Bedeaux, qui a été dressé une première fois en 1767 et repris en 1788, mais on sait aussi qu'il y a ponctuellement décrit et ponctuellement inventorié, des livres à Saint-Denis-du-Pas, des livres à Saint-Landry et des livres dans la chapelle de Saint-Aignan. Cinquième ensemble, il y a aussi des livres que je laisse de côté cette problématique pour l'instant, bien qu'on dispose d'un certain nombre d'inventaires relativement dispersés, il y a des livres dans les bibliothèques personnelles des chanoines. Et sixième ensemble, je laisse aussi de côté la question des boutiques, de libraires, ces librairies, hein, puisque des officines d'imprimeurs libraires sont installées à partir de la fin du XVe siècle par voie de location dans telle ou telle maison de chanoine. Et puis, vous savez du reste, du moins les gens de l'imprimé et du monde typographique savent aussi du reste qu'il y a une présence forte, très forte, dès la fin du XVe siècle, des officines d'imprimeurs libraires dans la rue Neuve Notre-Dame, et que cette présence ne se démentira pas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pardon. Alors, la reconstitution de cette bibliothèque repose d'abord sur un effort d'inventaire et d'approche globale des collections, qui convoque la prospection des marques de provenance. Un exemple, la prospection également des sources catalographiques. Et ces sources catalographiques, alors certaines sont intégrées dans le registre capitulaire, vous avez des donations, des inventaires partiels, et elles sont en la matière relativement dispersées dans cette longue série, dans cet océan textuel que représentent les registres capitulaires, mais on a quand même quelques guides pour naviguer dans cet océan. On a quelques guides avant même que le projet d'édition ne permette des interventions, des opérations de fouilles textuelles quand l'ensemble des registres sera édité en XMLTI, puisque c'est une des ambitions du projet INDEP. Voilà. Alors, quels sont ces outils qui existent déjà? En fait, une extraction de la plupart des actes relatifs à la bibliothèque a été effectuée au XVIIe siècle, hein, et cette extraction thématique, hein, se trouve conservée, reliée en tête d'un catalogue de la bibliothèque dressé au XVIIe et aujourd'hui conservée à l'arsenal. Mais on dispose aussi d'un index par matière de l'ensemble des décisions des chapitres, y compris des décisions concernant le sujet de la libraria. Et cet index par matière, ce grand effort de prospection documentaire et d'indexation a été effectué par le chanoine Sarrazin au milieu du XVIIIe siècle, et ce travail, cet index, est conservé aux Archives nationales dans la série WL 233-318. C'est quand même une source assez abondante. En tout cas, ces deux sources, l'extrait des actes relatifs à la bibliothèque capitulaire et les sujets débattus au sein du chapitre concernant la matière libraire, ont été les deux outils principalement utilisés par Alfred Franklin, qui a livré en 1863 ses recherches sur la bibliothèque publique de l'église de Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle, travaux qui ont été repris et largement étendus pour être intégrés dans son histoire des anciennes bibliothèques de Paris, publiée à partir de 1867. Donc, prospection des marques de provenance, prospection des sources catalographiques à l'intérieur, enfin, se trouvant ponctuellement intégrées à l'intérieur de la masse textuelle des registres capitulaires, mais il y a aussi un travail que nous avons entrepris d'édition de ces sources, ou moins téméraire, plus modestement, le choix a été fait de retenir l'une de ces principales sources catalographiques, potentiellement la plus exhaustive. Et c'est à partir de cette source, de ce catalogue, une fois son contenu transcrit et balisé en XMLTI, qu'il sera, du moins nous l'espérons, un peu plus aisé de lancer des requêtes pour s'efforcer d'en localiser aujourd'hui les items, hein, aussi bien manuscrits qu'imprimés. Donc on a retenu le catalogue aujourd'hui conservé à la bibliothèque de l'Arsenal sous les codes 6259-6261. Voilà, vaste inventaire en 3 volumes dressé en 1733 qui est en cours de numérisation. Et si vous vous promenez dès aujourd'hui sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale, vous pourrez constater que le 2e volume, le manuscrit 6260 de l'Arsenal, est déjà numérisé et déjà diffusé en ligne. Hein. Le 1er volume, 62-59, est consacré aux manuscrits et aux imprimés de format in-folio. Le 2nd, dont vous avez une image sous les yeux, est consacré aux imprimés de format in-quarto. Et le dernier, 62-61, aux imprimés de format in-octavo. Donc, c'est l'œuvre, ce grand inventaire du chanoine Armand-Victor Guichon, qui est décédé en 1748, après avoir assuré les fonctions de bibliothécaire de la Bibliothèque commune du chapitre pendant près d'un demi-siècle. Il a vu la collection capitulaire croître de manière assez significative. C'est sans doute la période de croissance la plus importante à l'époque moderne, la période qui correspond à l'administration de Guichon, dons réguliers de la part d'un grand nombre de chanoines, de la part de clercs, d'autres établissements ecclésiastiques, et, par exemple de Saint-Martin-des-Champs, dons d'auteurs, l'abbé Leboeuf. Guichon laissera aussi à sa disparition à Notre-Dame quelques 700 livres imprimés ou manuscrits de sa propre bibliothèque, qui comprennent entre autres, on est sans doute en marge de la liturgie, mais c'est très intéressant, hein, du point de vue aussi bien de l'histoire littéraire que du patrimoine écrit, dans sa bibliothèque se trouvait une partie des archives littéraires héritées de son beau-frère Charles Perrault. Alors, ce que l'on constate dans ce catalogue dressé dans les années 1730, c'est que le système classificatoire, voilà, vous voyez, articulé autour d'une séquence alphabétique A, B, C, D, E, F, G, H, etc., ce système classificatoire est un peu sui generis. Il est globalement imposé par la topographie des collections, d'abord les manuscrits, puis les in-folios, puis les quartos, puis les in-octavos, et il ne convoque absolument pas la norme systématique qui, depuis les années 1690, réunit les pratiques bibliothécaires en France et notamment à Paris, aussi bien en contexte conventuel que dans le monde des bibliothèques privées ou des bibliothèques institutionnelles. Et cette normalité classificatoire, c'est celle qui repose sur le système dit des libraires de Paris, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, donc un système pentasystémique avec 5 grandes classes, théologie, jurisprudence, belles lettres, sciences et arts et histoire, chacune de ces 5 grandes classes faisant l'objet d'une hiérarchie, d'une granularité hiérarchique. Voilà, en tout cas, ce système et l'économie de ce système de l'organisation et de la méthodologie bibliothécaire n'est absolument pas convoqué par Guichon. Son classement ad hoc offre en revanche, on peut s'y arrêter, certaines granularités assez particulières, hein, voilà, qui sont assez significatives. Voilà, il met en valeur. On a parfois des excroissances à l'intérieur de ce système alphabétique sur lequel on va s'arrêter, notamment celle qui m'a voilà, beaucoup intrigué et dans laquelle je crois je vais revenir. C'est celle de la série H. Hein, donc qui met en valeur de manière tout à fait exceptionnelle la querelle janséniste. Voilà, alors cette série H qui est consacrée aux théologies polynicies, hein, en gros à la théologie controverse, elle fonctionne dans les autres organisations bibliothécaires de manière assez déclinée et uniforme, hein, sous cet intitulé général, hein, théologie polémique, on a une déclinaison, les antitrinitaires, les sociniens, les quakers, les réformateurs, les nouveaux réformateurs, etc. Et là, dans le cas de Notre-Dame, ce qu'on voit, c'est que tous ces différents sujets de controverse et de théologie polémique sont rassemblés sous un seul sous-intitulé, et l'ensemble des autres intitulés, hein, regardez-en le détail, pour et contre le livre de la fréquente communion, controverse relative à la théologie de la grâce, pour ou contre Arnaud, Port-Royal, etc., etc. L'ensemble de ces séquences sont consacrées à la querelle janséniste. On a là une preuve de la domination absolue de cette problématique, à la fois par le nombre d'items concernés et par son affichage à l'intérieur du système classificatoire. Voilà, c'était un détail pour les modernistes. J'avance un petit peu, en tout cas, ce grand catalogue de 1733, ça n'est pas un inventaire d'une certaine manière, c'est véritablement un véritable catalogue d'usage. Ça n'est pas un inventaire clos, c'est un outil de gestion catalographique. Il est davantage conçu dans son organisation, dans sa matérialité, pour accompagner la vie et la croissance de la collection, que pour en assurer la conservation, l'évaluation ou la transmission. On le voit à un certain nombre de détails, la manière dont des blancs, des espaces libres sont ménagés dans les espaces interstitiels entre les sections. On le voit aussi à la présence de papillons correctifs qui ponctuellement sont venus corriger des items, hein, édition qu'on a remplacée par une autre, exemplaire qui a circulé à l'intérieur du chapitre, etc. Donc, voilà, donc substitution d'un livre ou d'un ensemble, d'une séquence de livres par une autre. On le voit aussi au fait que, aux interventions successives de plusieurs mains qui ont assuré la gestion, peut-être au quotidien, de cet outil de travail. Je ne m'avance pas plus loin, on attend la disponibilité numérique des trois volumes et le début du travail d'édition pour explorer un peu plus cet outil dans sa matérialité. Je voudrais m'arrêter sur un autre éventail de sources plus diversifiées, mais qui forment un ensemble un peu assez cohérent. Diversifiés mais cohérents, ce sont les sources catalographiques qui ont été dressées pas beaucoup plus tard, hein, pas beaucoup après le catalogue de Guichon, hein, qui date du milieu de la décennie 1730. Là, ce sont des sources qui ont été dressées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui vont être rassemblées en 1790, puisque c'est à partir de ces sources-là que sera constitué, sur la base d'un récollement, l'inventaire de confiscation révolutionnaire. Alors cet ensemble de sources catalographiques m'intéresse tout particulièrement, car il documente un certain nombre de disparitions, et il permet de documenter, ou il offre un certain nombre de signes ou de mentions à explorer sur la circulation des livres entre le sanctuaire, la sacristie et le trésor d'une part, et la bibliothèque capitulaire, la grande bibliothèque commune d'autre part. Alors dans cet ensemble, dans ce set de sources catalographiques, se trouve d'abord le premier catalogue imprimé de la bibliothèque capitulaire, vous l'avez sous les yeux, nous l'avions bien observé en 2012-2013, c'est ce catalogue, au moment du colloque Notre-Dame et au moment de l'exposition des livres de Notre-Dame à la bibliothèque Mazarine. Mais il existait, comme vous allez le voir, toute une série de suppléments manuscrits conservés aux archives nationales que nous aurions dû voir et que nous n'avons pas vus. En tout cas, ce catalogue imprimé, catalogue des livres de la bibliothèque du chapitre de l'Église de Paris, il est rédigé par Jean-Baptiste Antoine Malherbe, qui est un bibliothécaire, successeur de Guichon. Ça reste quand même, ce catalogue imprimé, un objet qui reste enfin, encore mal identifié aujourd'hui. J'en ai repéré 4 exemplaires, ce qui est assez rare, enfin, pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Il y a un exemplaire aux Archives nationales que vous avez sous les yeux, hein, qui est conservé dans le fond de l'église de Paris, dans la série L. C'est l'inventaire qui a servi de support pour le récollement révolutionnaire. Il y a un deuxième exemplaire à la bibliothèque de l'Assemblée nationale qui n'est pas daté, voilà, qui n'est pas particulièrement identifié. Il y a un exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France qui est daté, enfin, dont le catalogue de la BNF donne la date de 1727 pour des raisons qui m'échappent mais qui sont sans doute fondées. Voilà, en tout cas, je ne comprends pas cette date de 1727. Il est coté dans la série Delta, c'est amusant, entre guillemets, puisque c'est la série dans laquelle ont été catalogués les catalogues de vente publique de livres du XVIIIe siècle. C'est une vaste série, cette série Delta, du département des imprimés, qui forme une ressource considérable pour appréhender le commerce du livre de seconde main et le commerce du livre de l'antiquaire. Donc, la question se pose de savoir pourquoi le catalogue des livres de la bibliothèque capitulaire a été coté dans la série Delta. Voilà, il y a quelques hypothèses qui me semblent tenir, on reviendra peut-être dessus. Et il y a enfin un quatrième exemplaire conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève qui est daté, et bien daté, de 1760, et qui vient de toute évidence de la bibliothèque de l'abbaye Genovéfaine que les responsables de la bibliothèque capitulaire ont dû déposer au sein de l'abbaye Sainte-Geneviève, au sein de la bibliothèque Genovéfaine, dès l'impression en 1760. Donc c'est tout, 4 exemplaires, c'est relativement rare, hein, pour un catalogue de bibliothèque de ce type-là, en tout cas un catalogue de bibliothèque imprimée dont la rédaction et dont l'impression ont été confiées à un personnage bien connu qui est un imprimeur libraire parisien sur lequel je reviendrai. Alors en tout cas, cet inventaire de 1760, il est dressé dans un contexte particulier. Il n'est pas redondant par rapport au catalogue de Guichon. Je tiens à ce terme de catalogue que nous avons vu tout à l'heure. Ça n'en est pas la version imprimée. Guichon, du reste, était mort en 1748. Et puis, après la mort de Guichon, vous le savez, c'est sans doute un point sur lequel Maxence Hermand est revenu de son intervention et qui a en tout cas été bien documenté par l'enquête de Charlotte de Noël, puisque la collection a été amputée dans la décennie 1750. La nécessité, vous le savez, de financer les travaux de reconstruction de l'ancienne sacristie a conduit le chapitre à vendre au roi un peu plus d'une trentaine, plus de 300 lapsus, un peu plus de 300 manuscrits parmi les plus précieux de la collection. La transaction est effectuée en avril 1756. Elle est à l'origine de l'actuel fonds Notre-Dame de la BNF. Je renvoie à l'étude de Charlotte de Noël publiée dans Scriptorium, hein, sélection extrêmement avisée. 3 manuscrits du roman de la Rose, le dossier du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, 2 manuscrits des 7e et 8e siècles de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, etc. Voilà, donc ça n'est pas d'une certaine manière le successeur ou la version ou l'avatar imprimé du catalogue de Guichon dont nous allons réaliser l'édition électronique. D'abord parce que la collection a été reconfigurée, elle a été amputée, et puis surtout parce que sa logistique, son organisation interne est différente. Je l'ai dit, son impression et sa réorganisation ne sont pas le fait d'un bibliothécaire, elles ont été confiées à un imprimeur libraire et pas n'importe lequel. Marie-Jacques Barrois, il est maître essart de l'Université de Paris et c'est devenu surtout l'un des experts parisiens de sa profession sur le terrain bibliographique. Hein. C'est un des plus grands spécialistes au milieu du XVIIIe siècle de la vente de bibliothèques privées, de l'animation du marché d'antiquariat et de l'expertise bibliographique et de l'organisation méthodique des contenus bibliothécaire préparé pour la vente publique. Il a publié lui-même une série extrêmement importante de catalogues de vente publique, toujours organisés comme celui-ci, comme il l'a fait pour Notre-Dame, organisés selon les cinq grandes classes du système dit des libraires de Paris. Voilà, que dire encore de Barrois? Oui, personnage important, je le disais, il fait partie du bureau du syndic de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris. Il est également marguillier et commissaire des pauvres de la paroisse Saint-André des Arts à partir de 1754. Donc, là, c'est un personnage qui a aussi une présence institutionnelle partiellement publique qui n'est pas anodine. Donc, j'avance rapidement dans le système des libraires de Paris. Il y a à l'intérieur de la grande classe théologie, la première, une sous-séquence consacrée à la liturgie. Vous la voyez s'ouvrir là, sur le feuillet de droite. C'est une séquence très homogène dans laquelle on compte un peu plus de 200 unités, aussi bien manuscrits et imprimés. Je tire comme ça, par coquetterie, votre attention sur l'avant-dernier item du feuillet de droite. On y retrouve le missel de Gérard de Montaigu. Voilà, aujourd'hui à la bibliothèque Mazarine, dont une très belle notice avait été livrée par Charlotte de Noël et Jean-Baptiste Lebigue lors de l'exposition de 2012-2013. Voilà l'ensemble du contenu de cette sous-séquence liturgique dans l'exemplaire du catalogue de 1760 qui a servi pour la réalisation de l'inventaire de confiscation révolutionnaire de 1760. Alors, on peut s'interroger sur le degré d'exhaustivité de ces deux grandes sources catalographiques que nous venons d'évoquer. Si l'on aligne ces deux inventaires, donc celui de Guichon des années 1730 et celui des années 1760, celui de 1760 imprimé par Barrois, et si on dresse un tableau de la production liturgique intégrée dans l'un comme dans l'autre, qu'elle soit manuscrite, qu'elle soit imprimé, et bien même en tenant compte d'un certain nombre d'inventaires complémentaires sur lesquels je reviendrai, notamment sur l'inventaire du trésor, on est assez surpris de ne pas y retrouver des objets pourtant attendus. Parmi les missels, alors vous avez vu peut-être en passant tout à l'heure une belle série qui a l'air très très homogène, de missel à l'usage de Paris, depuis le XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, en page 12. En tout cas, parmi les missels imprimés à l'usage de Paris, les impressions les plus anciennes n'y apparaissent pas. On n'y retrouve pas le missel de 1481, premier qui fut imprimé à Paris et premier à l'usage de son église. On n'y retrouve pas non plus la nouvelle édition de ce missel de Paris qu'en donne le musicologue Jean Le Munera en 1490. C'est celui que vous voyez à l'écran, enfin, vous voyez le bifeuillet d'ouverture du canon. Une édition qui est datée au colophon de la 18e année de l'épiscopat de Louis de Beaumont. Un missel donc imprimé par Jean Dupré, ce grand imprimeur libraire parisien dont l'activité s'étend sur les deux dernières décennies du XVe siècle et qui a pris en charge l'essentiel de la production liturgique parisienne. C'est vraiment un spécialiste de ce répertoire. On a 38 missels imprimés à Paris au XVe siècle, dont un nombre important pour l'usage du diocèse de Paris, mais aussi pour de nombreux diocèses provinciaux, Amiens, Chalon-sur-Marne, Limoges, Reims, etc. etc. Donc l'édition, je l'ai dit, a été préparé par Jean Le Munera, à qui l'évêque Louis de Beaumont avait sans doute expressément confié la révision d'une partie des rites parisiens. Le Munera, les musicologues du séminaire le connaissent bien. Il était chantre au collège de Navarre. Il sera nommé aussi recteur de l'université de Paris et son rôle dans le maintien des traditions du plein chant est assez important. En tout cas, on observera que dans cette édition, la place réservée à la notation musicale dans le feuillet du canon a été laissée en blanc au moment de la composition typographique et réservée à l'intervention ultérieure des copistes et rubricateurs, ce qui n'est pas toujours le cas parce que Dupré est l'un des rares imprimeurs, l'un des rares typographes parisiens de la fin du XVe siècle à maîtriser à commencer à maîtriser le recours à l'impression, aux technologies de l'impression, hein, même si c'est plutôt de la gravure sur bois, même si c'est de la gravure sur bois et pas de la gravure typographique pour l'impression musicale. Bref, voilà, pour le plaisir de voir quelques incunables. En tout cas, il n'y a pas trace dans les sources catalographiques de ces différents missels imprimés à Paris, à l'usage de Paris, au XVe siècle. Je retiens d'autres exemples qui sont plus tardifs et qui ont été mis en exergue, eux, par Achille David-Rigaud. La bibliothèque Mazarine est en effet la seule institution, la seule bibliothèque à conserver les témoins des graduels publiés en 1662, sous l'épiscopat du cardinal de Retz, et en 1689, sous l'épiscopat de Monseigneur de Harlay, l'un et l'autre étant à l'initiative de réformes importantes du champ liturgique pour le XVIIe siècle. Donc, non seulement les seuls exemplaires connus, les deux seuls exemplaires connus ne proviennent pas de Notre-Dame de Paris, il n'y a aucun signe, aucune marque, aucune provenance évidente à l'intérieur des exemplaires qui signalent un passage ou un usage à l'intérieur du cloître cathédral, mais surtout on n'a absolument aucune trace dans les différents inventaires du passage d'un exemplaire de l'une ou l'autre de ces deux éditions. On s'arrête un moment rapidement sur la première, celle de 1662. Oui, ce que j'aurais dû dire, c'est que globalement, jusqu'à la réforme de Monseigneur de Vintimille, enfin jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'en 1736, l'avènement et depuis le XVIIe, l'avènement presque de chaque nouvel évêque a donné lieu à peu près à une réforme plus ou moins importante du culte qui a périmé pour partie les éditions liturgiques antérieures, qu'on parle des graduels, des bréviaires, d'antiphonaires, etc., etc. Voilà, bon, rappelons simplement ce que les modernistes d'entre vous savent, mais il y a un droit de l'Église de Paris à disposer en toute autonomie des usages liturgiques. C'est un droit qui lui est permis par la bulle, qui lui a été permis dans le sillage du Concile de Trente par par la bulle de promulgation du bréviaire tridentin de 1568, pour un certain nombre de raisons explicitement avancées à l'époque, notamment le fait que Paris appartient à la catégorie des églises pouvant revendiquer une liturgie ancienne de plus de 200 ans. Voilà ce qui l'exemple d'avoir à adopter servilement, si je puis dire, la liturgie romaine. Bref, donc ce présent graduel appartient à la série de livres liturgiques composés et réformés sous l'autorité des archevêques Gondirès. C'est une période qui se distingue par une attention soutenue portée à l'organisation de la cérémonie, portée à la notation du chant. Cette réforme a donné lieu à la réalisation et à l'impression d'un bréviaire en 1657, d'un diurnal en 1658, d'un processionnal en 1660 et en 1662 d'un cérémonial et du graduel dont vous avez sous les yeux le seul exemplaire que je passe rapidement, mais il y a un avertissement en tête qui est extrêmement intéressant puisqu'il explicite les axes, la méthodologie imposée par l'archevêque aux réformateurs. Et ces consignes sont assez intéressantes aussi et assez précises, exceptionnellement du point de vue de la musicologie, la nécessité et rappeler d'indiquer avec précision les tons et les mélodies, d'intégrer de manière systématique et de vérifier la rigueur de leur emploi en matière de valeur de notes. Donc on a le souci de bien utiliser et de bien imprimer au bon endroit, en évitant toutes les erreurs nombreuses qui peuvent se glisser dans l'édition musicale, de bien noter les valeurs, et notamment les trois valeurs les plus usitées, que sont la longue, avec sa hampe, la brève, carrée, je crois que j'ai une image quelque part, voilà. La longue avec sa hampe, la brève, carrée, la semi-brève, qui est losanger. Voilà. En 1689, je remonte un petit peu. Oui, j'y suis. Voilà. On va retrouver d'ailleurs dans le graduel de 1689 ces prescriptions formulées avec la même exigence. Donc, c'est en 1689 également, nouvelle campagne de réformation, initiée cette fois par l'archevêque François de Harlay. Voilà, c'est l'une des grandes réformes néo-gallicanes de la liturgie, voilà, peut-être les plus ambitieuses. Et là, c'est la même chose, on a un set de publications, si je puis dire, en tout cas un panel de publications, un bouquet éditorial. Le graduel en 1689 a été précédé du missel en 1685, de l'antiphonaire en 1681 et du bréviaire en 1680. Le bréviaire de 1680 étant d'ailleurs le seul dont nous retrouvons trace dans les inventaires de la bibliothèque du chapitre. Alors, la place initiale des livres liturgique, évidemment, enfin, on peut s'interroger sur ces disparitions, sur ces manques, sur ces angles morts. Il est évident que la place initiale des livres liturgiques n'est pas dans les bibliothèques, mais dans le chœur, puis dans la sacristie, et que leur passage dans la bibliothèque, à la fin de leur usage, n'était de toute évidence pas systématique. Voilà, alors reste à qualifier, reste à comprendre le rôle sans doute intermédiaire que tient dans cette circulation libraire et dans ce dispositif conservatoire le trésor de Notre-Dame. En tout cas, ce qu'on a pu envisager en 2012-2013, c'est que les bréviaires et les missels moins encombrants ont été plus systématiquement conservés, soit dans le trésor, soit à la faveur d'un ultime transfert dans la bibliothèque du chapitre, pour éventuellement servir de document de référence, contrairement aux grands livres de chant dont relèvent les graduels, dont la disparition est beaucoup plus systématiquement observée. Voilà. On a du reste lieu de vérifier, l'occasion de vérifier qu'une hypothèse est confirmée, hein, c'est que les chanoines se sont périodiquement séparés de certains livres liturgiques que leur ancienneté, que les multiples réformes du culte avaient rendu caduques et n'ont conservé parfois les plus anciens, parfois les plus remarquables, hein, notamment les grands manuscrits à peinture de la fin du Moyen-Âge, donc n'ont conservé que quelques témoins exceptionnels et sur la base d'indices, d'indicateurs de sélection qui ne sont pas toujours, évidents. Bref, donc des livres liturgiques et de nombreux livres liturgiques n'ont sans doute jamais rejoint la bibliothèque et une partie des sources que nous n'avions pas consultées en 2013 nous permettent de mesurer en partie aujourd'hui, celles de ces pertes qui sont volontaires, en tout cas qui ont été consignées dans la vie, hein, et dans la mécanique bibliothécaire du XVIIIe siècle, et c'est le point sur lequel je voudrais terminer. Donc, je disais tout à l'heure que l'inventaire de 1760 a connu plusieurs suppléments, hein, des inventaires partiels qui consignent soit des livres qui, ayant rejoint la bibliothèque commune après la rédaction et la publication de cet inventaire de 1760, soit des livres qui lui avaient tout simplement échappé, soit des livres qui n'étaient pas localisés dans la bibliothèque et qui n'avaient pas forcément vocation à la rejoindre, mais qui étaient localisés dans le chœur, dans la grande ou la petite sacristie, etc. Bref, parmi ces différents suppléments sur lesquels je ne voudrais pas trop m'appesantir, voilà, je voudrais m'arrêter sur l'inventaire du trésor. Alors, la présence, enfin, les livres conservés au trésor font l'objet de plusieurs inventaires manuscrits, au moins depuis le XIVe siècle, voilà, relativement dispersés sur le plan conservatoire. Mais il y a un inventaire général qui est dressé en 1754 et qui est, malgré ce que vous voyez à l'écran, qui n'est pas un inventaire imprimé. Seule la page de titre est imprimée. Hein, l'ensemble des cahiers sont des cahiers manuscrits, hein, dont là, qui se sont prêtés à un usage, à une vitalité, hein, à une vie catalographique beaucoup plus évidente lorsqu'on manipule un catalogue de bibliothèque manuscrit que lorsqu'on manipule un catalogue de bibliothèque imprimée. Voilà, le temps passe, mais j'avance un petit peu. Voilà, il y avait des choses un peu amusantes parce qu'on y voyait décrit avec éloquence des objets que nous connaissons bien. Où est-il le grand graduel de 1669 de Compardel? Bon, je ne le trouve pas. On ne va pas perdre de temps. Voilà. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a un certain nombre de mentions qui confirment ce que nous avions soupçonné. Voilà, arrêtons-nous sur l'item 95. Item, le livre des processions couvert d'argent des deux côtés avec les figures de Saint-Pierre et Saint-Paul, vermeil doré, puis avec ses feuilles de violin. Voilà, donc assez lourd, hein, 13 mars 14 onces et une estimation 675 livres. Voilà ce que nous notons en marge, et je reviendrai sur les signataires de ces petites mentions hein, qui sont assez régulières, ces marginalia. Voilà, l'article 95 a été supprimé parce que l'on a fait, l'article 95 a été supprimé, attendu qu'il a été fait en place un livre beaucoup plus beau. Hein, voilà, donc un critère non pas d'ordre liturgique, hein, voilà, on n'utilise pas un marqueur d'obsolescence liturgique là, mais on utilise un marqueur assez évasif de nature esthétique. J'avance un peu, mais la plupart des voilà. Voilà, le item 207. Item 3 anciens livres écrits en gothique sur vélin servant pour les litanies du samedi saint et la veille de la Pentecôte reliés en Vaubrun. Que lisons-nous dans la marge? L'article 207 n'étant plus d'usage, cette fois, a été supprimé. Regardez l'article suivant, 208. Un petit livre relié en maroquin bleu du Levant servant pour l'administration des sacrements et enterrements de messieurs les chanoines, écrit sur papier par monsieur Bertrand Chanoine et curé de Saint-Jean-le-Rond, etc. Il a été supprimé. Il y en a un neuf. Voilà. Indique, avec évidence la note marginale. Quelques exemples encore. 211, item, un grand livre in folio écrit en velin dans lequel sont les lamentations de Jérémie servant pour le vendredi saint relié en maroquin noir avec trois filets d'or. Je lis supprimé comme étant très mauvais et n'étant plus d'usage. Alors, quel est le sens de très mauvais? Comment interpréter ce très mauvais? Est-ce que très mauvais du point de vue liturgique, du point de vue de l'état de conservation, du point de vue de la qualité graphique? Voilà, quelque chose à explorer. Et puis, de manière beaucoup plus expéditif, deux livres de messe pour les morts servant pour les basses messes reliés en veau noir avec une tête de mort aux quatre coins, supprimés, hors d'état de servir. Voilà. Et puis on a voilà, dans le trésor d'en haut, à partir de la page 245 de l'inventaire, là on voit un certain nombre de suppressions massives à droite et qui ne sont même pas justifiées. Voilà. Puis encore un marqueur qui renvoie aussi à l'histoire du bout et sur lequel on reviendra, hein, tous ces livres gothiques, hein, dans la marche, tous ces livres gothiques n'étant plus d'usage et en très mauvais état ont été supprimés. Voilà, appréciation d'ordre esthétique, conservatoire et liturgique, donc trois critères qui sont convoqués pour provoquer la disparition d'un certain nombre de grands livres liturgiques se trouvant dans le trésor et qui explique à la fois leur disparition et le fait qu'ils n'ont pas rejoint la bibliothèque commune des chanoines. Alors, ces sorties de l'inventaire, et je termine là, ces sorties de l'inventaire, elles sont paraphées, vous l'avez vu régulièrement, notamment par Guillaume de Montjoie, qui est chanoine, je vais essayer de, voilà, on a deux Vienne. Voilà, Guillaume de Montjoie, qui est mort en 1783, il est chanoine et c'est l'un des deux intendants de la, l'un des deux intendants de la fabrique pour la décennie 1700, pour les décennies 1770-1770. On le connaît relativement bien. Il a publié en 1763, ce Guillot de Montjoie, une description historique des curiosités de l'église de Paris, contenant le détail de l'édifice, tant extérieur qu'intérieur, le trésor, les chapelles, tombeaux, épitaphes et l'explication des tableaux avec les noms des peintres, etc. Voilà. Donc, ce guide, hein, cette description exploratoire, voilà, du patrimoine bâti, du patrimoine mobilier, du patrimoine artistique du cloître Notre-Dame ne l'a pas empêché, si ce n'est de décider, en tout cas, de valider un certain nombre d'éliminations de manuscrits, et y compris des manuscrits, à peinture, depuis le trésor. Donc, sur la base de critères, j'y reviens, qui sont à la fois sur lesquels il faudra revenir pour essayer de mieux les comprendre, hein, la caducité ou l'obsolescence liturgique, l'approximation de contenu, mauvais, hein, il semble qu'on voit plutôt là au contenu, des critères esthétiques, la présence de ce vilain marqueur de gothique, hein, cette acception du terme gothique qu'on retrouve bien sûr chez Voltaire, mais qui va connaître dès la fin du XVIIIe siècle une certaine inflexion pour connaître l'épanouissement que vous savez au moment de l'époque troubadour au début du XIXe siècle, hein, lié au troubadour. Voilà. En tout cas, les sources, je voudrais terminer là-dessus, les sources catalographiques de la bibliothèque commune ne portent, elles, pas trace d'élimination ou de soustraction, contrairement aux inventaires du trésor. Il faut peut-être considérer que le trésor et la sacristie, hein, qu'il était lié, étroitement lié, y compris sur le plan topographique, constituent une espèce de purgatoire, hein, entre les sanctuaires et la bibliothèque commune. Il faudra en tenir compte sur le plan pratique dans notre travail d'édition électronique pour signaler la présence de ceux de ces livres dont la circulation, hein, du sanctuaire à la sacristie, puis au trésor et à la bibliothèque, dont cette circulation a été interrompue à un moment donné et qui, de fait, n'ont jamais rejoint la bibliothèque, et puis que nous serions bien en peine de localiser aujourd'hui dans les collections publiques. Voilà, merci de votre attention.